Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Bien, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue dans le deuxième temps de ce colloque consacré à la vie publique et à la vie privée à l'ère du numérique. Les travaux de la matinée nous ont permis de faire l'état des lieux à travers deux tables rondes. La première consacrée à l'exposé des fondamentaux et à l'étude de la problématique du droit à l'oubli, notamment. La seconde a été consacrée à la protection de la vie privée. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à l'impact, aux effets du numérique, à travers la problématique générale de la transformation de la vie publique et de la vie privée. Les travaux que nous avons menés ce matin nous invitent à la modestie. À la modestie parce que le développement du numérique pose un certain nombre de questions très intéressantes, très importantes au droit, mais en retour, le droit n'a pas encore, pour l'instant, trouvé de réponse satisfaisante à ces questions dont l'ampleur n'est plus à démontrer. Modestie également à l'égard d'une tendance que nous avons commencé à déceler ce matin, à savoir une tendance à la technicisation du droit. C'est cette technicisation du droit que nous allons voir se dérouler sous nos yeux avec les travaux de cet après-midi, à travers des problématiques comme l'administration électronique et traçabilité, à travers les transformations du droit fiscal par le numérique, l'accès et la diffusion électronique de l'information sur les entreprises, le droit au silence des puces et également une intervention consacrée à une administration plus accessible. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Georges Chatillon, que l'on ne vous présente plus, mais il faut quand même que je vous signale que c'est le directeur de votre master et qu'il est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Monsieur Chatillon, vous avez la parole, je vous en prie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce dont je voudrais vous parler pendant quelques instants, c'est le fond même d'une étude internationale qui est réalisée avec un professeur d'informatique québécois et également une professeure d'informatique en France. On a tout à l'heure entendu parler du secret professionnel qui interdit aux agents publics de révéler le contenu des traitements qu'ils font subir à nos dossiers, ce qui en principe donc laisse une garantie d'une sorte d'étanchéité. Il est évident que dans la pratique, cette étanchéité n'existe pas, puisque nos chers dossiers sont baladés de la main à la main dans les couloirs et dans les bureaux, oubliés dans les couloirs, etc. C'est un bon prétexte, tout à fait intéressant pour nous, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir protéger, nos chères données personnelles. N'oublions pas que les agents publics travaillent fondamentalement sur nos données personnelles, c'est-à-dire que ce qui nous concerne, c'est la matière première du travail administratif. Il n'y a rien d'autre pour la plupart des agents publics. Et pourtant, bien entendu, nous le savons, les agents publics donnent l'impression qu'ils ne savent pas que ce sont nos chères données qu'ils utilisent, puisque justement, ils ont tendance à anonymiser, en tout cas dans les relations avec nous, et à ne pas vouloir savoir. Donc là aussi, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Cependant, les traitements en ligne, et on a entendu tout à l'heure Élise Debiès, demandent qu'un certain nombre de données, plus ou moins sensibles, on parlait des données de sécurité sociale, qui sont reliées à la santé, que ces données plus ou moins sensibles puissent circuler, ou en tout cas être transférées d'une administration à une autre, éventuellement contrôlé par le fisc, puisqu'évidemment, c'est le fisc qui a surtout la haute main sur cet ensemble d'opérations. D'un autre côté, le problème fondamental de l'administration électronique en général, c'est ce qui se passe en back-office, C'est-à-dire que l'idée est qu'on introduit une demande dans n'importe quel guichet en ligne de l'administration, et ensuite les services se débrouillent pour traiter les demandes sans qu'on ait à les représenter à chaque service, comme c'est le cas aujourd'hui quand on traite du papier et qu'on passe devant différents guichets. Donc cette simplification qui est induite par l'informatique et ce qu'on appelle l'administration électronique, il est évident que pour les gens qui habitent dans les villes, en tout cas, ça ne peut être qu'un bonheur inespéré. On a tous croulé d'ennui et de désespoir dans les files d'attente devant les guichets, sans parler de l'arbitraire des petits fonctionnaires qui, dans la plupart des cas, ne connaissent pas le droit, mais ne connaissent que les instructions de leur chef, qui lui-même n'est pas juriste. Il faut monter plusieurs degrés dans la chaîne hiérarchique pour tomber sur des gens qui ont fait des études de droit comme nous et qui sont capables d'appliquer un texte. Donc nous sommes soumis à cet arbitraire. Et une des idées fondamentales de l'administration électronique, c'est justement de demander que des programmes informatiques puissent prendre un certain nombre de décisions qui en général se traduisent par oui ou par non, à la place d'agents qui de toute façon prennent des décisions qui se traduisent par oui ou par non. Bon. Les problèmes de forme, etc. etc. Donc, il faut chercher, trouver même un schéma d'échanges interadministratifs qui garantissent la traçabilité des échanges et du même coup garantissent la protection des données. Voilà quel est l'objet de cette recherche internationale et nous sommes en train évidemment d'aboutir. Alors le premier schéma que je vous présente, tu peux me passer ma montre là ? Merci. Le premier schéma que je vous présente s'intitule très pompeusement schéma de régularisation des routes de données, régularisation au sens de réguler, régulariser. Et on s'aperçoit effectivement qu'on peut être en présence d'un ensemble d'items, c'est-à-dire de données. Au fond, dans une perspective d'une administration électronique cohérente, c'est-à-dire bien régulée au niveau de l'État tout entier, en comprenant tous ses ministères et un certain nombre de ses services, on passe évidemment par des échanges entre les services publics et les particuliers, les services publics et les entreprises, et puis éventuellement entre les entreprises et les particuliers. Et bien sûr, tout ça passe par les tuyaux étatiques. Donc voilà quel est le processus. Aujourd'hui, la plupart des données qui rentrent dans le système administratif butent dans un tuyau qui éventuellement est une impasse, ou un aboutissement, et c'est le tuyau du ministère, puisqu'aujourd'hui, les tâches sont rigoureusement séparées entre les ministères, et c'est un principe juridique extrêmement important. Donc, si on veut que nos données rentrent par un guichet unique, par exemple, monservicepublic.fr, et puis ensuite être traitées par derrière, back-office, par les différents ministères concernés, il faut bien que ces données aient l'autorisation de circuler et en même temps qu'elles soient protégées contre les abus, le copiage, etc., etc., et qu'il n'y ait pas de fichiers indésirables. Donc c'est ça le but de cette recherche. Alors ici on voit investisseurs étrangers parce que c'est extrêmement important. Vous vous rendez bien compte que notre système administratif en ligne est en relation avec des centaines de milliers d'étrangers. Non seulement, bien sûr, nos amis, les citoyens européens, mais tous les gens qui commercent avec la France et qui envoient sans arrêt des mails au ministère de l'Agriculture, des Finances, de l'Industrie, etc. Et d'autre part, les entreprises ont des filiales en France, donc elles font ce qu'on appelle de l'administration électronique. Mais il y a aussi un certain nombre de requêtes qui sont faites depuis les sièges sociaux. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un système d'administration électronique, c'est non seulement quelque chose qui fonctionne au niveau du territoire français pour les résidents, qu'ils soient étrangers ou français, peu importe, mais qui ne peut être couvert à l'ensemble des requêtes qui viennent du monde entier et vice-versa. Il faut bien que nos chers services publics puissent envoyer des réponses. Donc, chaque État est soumis à cette problématique. Donc, bien sûr, pour nous, les investisseurs étrangers sont très importants. Il y a les usagers des téléprocédures, les commerçants et les industriels. Et ça se traduit par du droit qui concerne le commerce électronique, les marchés publics, le droit des données publiques en ligne et les archives en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter une couche qui est celle de la protection des données à la fois publiques et privées, bien entendu. Donc, on retrouve les mêmes acteurs, quels que soient les gouvernements, quels que soient les États, et on recherche donc comment, à tous les coups, protéger ces données. N'oublions pas que les agents publics sont tout autant que nous bénéficiaires des droits qui protègent la confidentialité de leurs données. Et c'est très important pour eux. On parlait des données personnelles dans les entreprises privées ce matin, mais aussi les données des agents. Et qu'est-ce que l'État a le droit d'en faire et comment les protéger? Alors, ici, je suis en présence de ce que j'ai appelé un schéma de l'administration électronique. En fait, la recherche porte sur les relations qui peuvent exister entre des serveurs, par exemple des serveurs ministériels, et l'ensemble des processus numériques de création et de circulation des données. Ce qu'on entend par données, c'est évidemment un mail, ça peut être une lettre qui a été scannée, ça peut être une photo, etc., etc. Toutes les données possibles, on peut également communiquer avec l'administration en envoyant des films. Ça n'est évidemment pas interdit. Toute une série de lois le permettent. Donc aujourd'hui, les données, c'est tout ce qui est numérisé. Donc il faut bien, si on veut contrôler cette masse de données qui est gigantesque, il faut pouvoir identifier ces données et ensuite les faire circuler au niveau de chaque ministère ou à l'intérieur du ministère, selon un processus qui va contrôler l'identité de la donnée, qui va donc enregistrer la donnée pour pouvoir la suivre. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. On va un petit peu décortiquer ce schéma, mais éventuellement, j'arrive à un résultat. Le résultat est que seul un certain nombre d'agents publics ont le droit de traiter les données et encore d'une certaine manière. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit bien sûr les SIG et ensuite ce qu'a repris Jean-Baptiste Thomas Sertillange sur le droit technologique. Je pense que la véritable solution est dans le droit technologique au sens où le droit est dans la puce, c'est-à-dire dans les programmes informatiques. La seule manière d'empêcher les gens de commettre des bêtises, que ce soit par étourderie ou par malveillance, c'est de les mettre en présence de programmes informatiques qui sont verrouillés et qui ne laissent la possibilité qu'à un certain nombre d'opérations qui sont prévues à l'avance et qui sont contrôlées par la suite. Ça donne le cas de l'agent public, mais c'est la même chose dans les entreprises privées, simplement on a beaucoup de retard dans le public. L'agent public qui va traiter un certain nombre de données dites personnelles aura bien sûr son ordinateur et il va rentrer sa carte de fonctionnaire dans la machine et la carte contient un programme informatique qui lui permet de faire telle ou telle opération et pas d'autres opérations. Donc si éventuellement il y a une fuite de données ou s'il y a n'importe quel hacking, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espionnage, y compris dans la fonction publique, c'est un moyen aussi d'identifier la machine à partir de laquelle on a commis des bêtises et donc sans doute la personne qui est à l'origine de la fuite. Alors, dans ce schéma de l'administration électronique, on trouve au centre un serveur qui a pour objet d'enregistrer les documents numériques et les papiers scannés, bien entendu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les greffes des principaux tribunaux ont des bancs de scannage hyper performants et tout document, quel que soit son format, sa nature, qui va rentrer dans le palais de justice à travers le greffe, aura été préalablement scannée, inventoriée, enregistrée, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et c'est même sans doute la seule manière de faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est le concept de répartition entre les serveurs des services, bien entendu. Et on est en présence de plusieurs fonctions. Ça, c'est la droite de ce petit schéma. On trouve une fonction de traitement des demandes en ligne des usagers, une autre de traitement des dossiers en ligne des usagers. J'y reviendrai. La notion d'échange interadministratif, celle de relation avec le coffre-fort électronique des usagers. Je rappelle que la loi de 2005 et le site Mon Service Public, on en a parlé ce matin, mettent à notre disposition des coffres-forts dans lesquels on peut stocker toute une série de documents officiels dont la liste est fournie sur le site. Moi-même, j'en suis client et ça me va parfaitement. Je pars tout à l'heure à Sao Paulo. Si jamais je perds mon passeport ou s'il m'est volé, je serai au moins capable de demander aux autorités des douanes, si elles le veulent bien, de se brancher sur mon coffre-fort, j'ai les mots de passe, etc. Et elles verront qu'effectivement, il y a, au sein de l'administration française, bien protégé, un document qui concerne Georges Chatillon et qui est le scan de son passeport ou de sa carte d'identité. Donc je crois que ça peut être extrêmement utile. Et c'est seulement quand on voyage qu'on se rend compte qu'un coffre-fort est extrêmement utile. Ensuite, il y a la notion de conservation-stockage et puis évidemment celle d'archivage. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ce schéma? On a un certain nombre, au centre, on a l'accueil des usagers en ligne, alors courrier électronique, téléprocédure, téléservice, et bien sûr des services annexes, ce qui se passe au téléphone, le courrier postal, les entretiens, et puis de l'autre côté, des instructions données aux agents, conseils aux usagers, guide des téléprocédures, guide des téléservices. Ici, on a un autre schéma que j'ai appelé chaîne juridique des traitements administratifs dans le cadre de l'administration électronique. Alors là, on est en présence des outils eux-mêmes. Si on regarde la petite croix qui est en bas du schéma, on est en présence du concept de réglementation des échanges interadministratifs. Donc, bien sûr, il faut toute une série de règles pour réguler ces échanges. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas de texte général qui prévoit la régulation des échanges entre les administrations, autre que un texte qui, par exemple, qui permet à telle administration d'envoyer une lettre à telle autre pour lui demander un certain nombre de renseignements qui eux-mêmes font l'objet d'un règlement. Mais si on regarde l'ensemble de la circulation des documents, on ne dispose pas en France ni de loi ni de règlement général qui se soit intéressé à la circulation des documents administratifs entre les différents services publics. Autrement dit, on est dans le cas par cas, et pour répondre simplement aux missions réglementaires de chaque ministère, puis de chaque direction, sous-direction, etc., on a bien sûr un certain nombre d'objectifs qui vont autoriser et même obliger telle sous-direction a envoyé une lettre à telle autre pour régler un problème qui peut être commun. Mais on s'est bien gardé pour le moment, et ça n'est pas ni péjoratif ni une insulte, on s'est bien gardé pour le moment d'essayer de comprendre quel est le jeu et le fonctionnement et les missions d'un système d'échange interadministratif en ligne. Alors je ne sais pas exactement pour quelles raisons, et je pense que la raison principale, c'est qu'au niveau du gouvernement, on tient à garder une forme d'étanchéité entre les directions parce qu'il est évident qu'il vaut mieux diviser pour régner. Et si demain on a un système d'échange interadministratif, plus ou moins automatisé, on s'apercevra que ça va mettre en cause toute une série d'éléments de pouvoir dans les hiérarchies de l'administration. Et pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc, système de réglementation des échanges interadministratifs, relié en bas aux droits des usagers et de l'autre côté, verticalement, aux droits respectifs des services et des agents. Et puis, au niveau horizontal de cette croix, on trouve à gauche les traitements interadministratifs des données des usagers, alimentée par la création des téléprocédures et des téléservices, et à droite, la conservation provisoire des données, c'est ce qu'on appelle le stockage, qui va déboucher sur l'archivage. Et les outils sont d'un côté le coffre-fort électronique des usagers, qui existe déjà, et de l'autre le dossier en ligne, qui pour l'instant n'est pas encore un concept mis en musique de droit administratif. Nous, usagers, on parle de notre dossier. Mais le droit administratif ne sait pas ce qu'est un dossier, c'est-à-dire les différents éléments constitutifs qui permettent à un usager, après avoir crapahuté devant deux ou trois ministères, d'obtenir enfin une réponse. Alors, il est évident que là aussi, on est devant une carence totale, à la fois en droit et puis surtout en termes de bonnes relations avec les usagers et entre les usagers et les services. Donc, la notion de dossier en ligne, je pense qu'elle va surgir assez rapidement maintenant. On en a déjà une préfiguration à travers l'exposé d'Élise de Biesse, puisque, effectivement, un certain nombre de données créées par différents services publics peuvent être confrontées les unes aux autres. Et si demain, on a un problème de contentieux, on sera bien obligé d'indiquer que pour les services qui ont participé à cette confrontation, il s'agissait bien d'un dossier. Et donc, pour l'usager, c'est aussi évidemment un élément de dossier. Mais pour l'instant, d'une manière strictement celle du droit positif, cette notion n'a pas encore été traduite dans le droit positif. C'est encore à l'étude. Alors, ce schéma est possible. Je vais accélérer. Je suis désolé. Ce schéma est possible parce que chaque document qui rentre dans cette machine, dans ce système d'échange administratif, est affecté d'un identifiant que j'ai appelé identifiant administratif, qui est une espèce de code-barre. Aujourd'hui, les codes-barres évoluent considérablement et à travers le web des objets, on a maintenant la notion de métadonnées qu'on peut parfaitement utiliser pour toutes les données qui rentrent dans les systèmes d'échange interadministratifs. Et c'est grâce à cet identifiant qu'on peut, bien entendu, conserver la trace d'un document et savoir enfin où il est. Donc, je vais résumer pour ne pas prendre trop de votre temps. Il y a d'autres intervenants. L'idée est que chaque objet, au sens de objet informatique, donc un email, une lettre, papier ou non, etc., tout objet qui rentre dans la sphère du service public fait l'objet d'un identifiant qui est attribué par le serveur qui traite l'ensemble des objets, soit, et en particulier au niveau de chaque ministère, bien sûr. À partir de là, le serveur conserve la mémoire de tous les objets qui sont entrés dans le circuit ministériel, et c'est le serveur qui va de lui-même envoyer l'objet vers l'agent public autorisé à le traiter. Donc ça signifie bien sûr une très bonne organisation et une très bonne répartition des tâches entre les agents à propos de ce qu'ils ont à faire concernant un email, une lettre, une décision, etc. Mais c'est un système qui est déjà en place dans d'autres pays, hélas plus petits que la France, mais qui ont quand même parfaitement réussi, ne serait-ce qu'à Singapour, par exemple, au Québec, à Hong Kong et ainsi de suite. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aujourd'hui gérer les services publics en ligne, c'est-à-dire l'énorme masse en termes d'octets de tous les documents qui rentrent dans un système administratif sans savoir a priori qui va traiter la demande ou le problème, donc quelle est la personne qui doit le faire et qu'est-ce qu'elle peut faire pour traiter cette demande. Donc, imaginons une demande quelconque, le document est tagué au niveau du serveur qui lui attribue un identifiant, évidemment, qui n'est pas altérable, et arrive dans la machine de l'agent, qui, en fonction des autorisations qui sont les siennes, traite la demande. C'est ce qui se passe dans le privé depuis 40 ans. C'est ce qu'on appelle les chaînes de workflow. Un document qui rentre dans une entreprise reçoit un identifiant et cet identifiant l'accompagne, que le document, la demande, la lettre soient traités par le service commercial, technique, la comptabilité, les finances. Il n'y aurait que les services publics aujourd'hui à ne pas faire comme ça. Et donc là aussi, on est extrêmement en retard et pour l'instant, on ne veut pas trop savoir ce qui fait la fortune des entreprises, c'est-à-dire, entre autres, une très bonne organisation et une très bonne gestion des informations. Donc voilà en gros ce schéma. Et je ne veux pas vous prendre plus de temps, j'aurai à en dire évidemment beaucoup plus. Merci beaucoup.